Bonjour, c'est Benjamin Muller, comment ça va? J'espère que vous êtes en forme, c'est le podcast des maternelles. Le podcast du maternel du mardi. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un sujet, on le sait, qui est sensible, on le sait, un sujet qui fait débat, mais néanmoins, c'est un sujet qui existe, donc c'est très important d'en parler. En tout cas, c'est notre mission dans cette émission et dans ce podcast, puisqu'aujourd'hui, on va parler de la GPA, la gestation pour autrui. Alors la GPA, on le sait, c'est interdit en France. Néanmoins, on sait aussi que ça existe, c'est un fait. Des familles ont recours à la GPA via l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc évidemment, ça nous intéresse beaucoup. Aujourd'hui, on va entendre le témoignage de Nathalie. Nathalie qui a porté l'enfant d'une amie très proche. Donc pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, aux États-Unis ou ailleurs, non. Vous allez d'abord donc écouter Nathalie, son témoignage évidemment très fort. Donc merci déjà Nathalie d'être venue raconter tout ça. Et puis on en parlera tout à l'heure avec une gynécologue qui est spécialisée dans la PMA, docteur Candice Autin. Le podcast des maternelles sur la GPA entre amis, c'est parti.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Agathe.
Merci de venir de Liège. Ah là là, Liège, plus belle ville de Belgique.
Eh oui.
Franchement, enfin plus sympa, on va dire en tout
plus
cas.
Sympa.
Alors vous venez nous partager votre histoire hors du commun. Après avoir eu deux enfants, Nathalie, vous êtes lancée donc dans cette aventure incroyable pour aider un couple d'amis ultra proches. Et pour des raisons médicales, ils ne pouvaient pas envisager une grossesse. Et donc, vous leur avez proposé de porter leur bébé. C'est une pratique qui est interdite en France, mais qui n'est pas interdite en Belgique, d'où vous êtes donc originaire. Alors, on va revenir en arrière, si vous le voulez bien, Nathalie. Tout commence quand vos amis évoquent l'idée de se lancer dans une GPA, la fameuse gestation pour autrui, avec une mère porteuse, mais en Ukraine. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Donc, c'est quoi? C'est une conversation? Vous êtes en train de parler de ça et vous dites, oui. Tiens, on a pris cette décision.
C'est ça, oui. Donc, il nous explique un peu le principe, puisque nous, on ne connaissait pas du tout le sujet, évidemment. Et en fait, ils nous disent que ça coûte un certain prix, mais qu'ils sont prêts à tout pour avoir un enfant. Ce qu'on pouvait forcément comprendre.
Vous, vous saviez qu'ils avaient des problèmes pour avoir un enfant, qu'ils ne pouvaient
oui,
pas l'envisager savait. Normalement.
Oui.
Qu'est-ce que ça a fait résonner en vous, cette conversation?
Dans un premier temps, ça nous brise le cœur, parce qu'on les voit vraiment malheureux, en fait. Mm-hmm. C'était vraiment un but dans leur vie, c'était d'avoir un enfant. Ils ne pouvaient pas envisager une vie sans enfant.
Et donc là, vous entendez ça, est-ce que tout de suite vous vous dites « je leur rendrai bien service » ?
Dans un coin de ma tête, oui.
Et vous en parlez à votre mari ?
J'en parle, mais par après. Donc je les laisse retourner chez eux, j'y réfléchis un petit peu, et puis je me suis lancée dans la conversation avec mon mari. Et lui, il a été vraiment, vraiment surpris. Parce que je n'aime pas vraiment être enceinte, c'est pas mon truc. Donc, il a été vraiment étonné de ma proposition, mais il l'a forcément accepté. Il trouvait que c'était vraiment, vraiment une bonne idée.
Ensuite, vous en avez parlé à vos enfants?
Oui, à ma grande fille, parce que mon fils était un peu petit à cette époque-là.
Et comment elle a réagi, votre grande fille?
Ma grande fille était tout à fait d'accord. Elle trouvait ça vraiment magnifique. C'était vraiment une proposition à laquelle elle n'aurait jamais pensé.
Donc toute la famille est d'accord.
Oui.
Vous vous dites, je vais leur faire ce cadeau, maintenant il faut leur annoncer. Me racontez tout, comment vous avez fait, ce que vous vous êtes dit en arrivant, etc. Vous êtes, déjà, c'était à quelle occasion? Vous leur avez annoncé comment? Un dîner
Un apéro.
Un apéro.
Oui, bon, on a dit, allez, venez à la maison, on prend l'apéro. Et puis, on s'est tous réunis autour de la table. Et là, je leur ai dit, dites, qu'est-ce que ça vous ferait si je vous proposais de vous prêter mon utérus? Donc forcément, ça a été un choc, puisqu'ils savent que je n'aime pas être enceinte, donc voilà, il n'y avait pas de secret. Mais ils ont été émus à un point inimaginable, évidemment.
Mais j'imagine qu'ils n'y ont pas cru, surtout nous, au début. Ils se sont dit, mais
oui, c'est ça,
pas possible.
Fait. Oui, c'est ça. C'était d'abord l'effet de surprise, et puis... La gaieté, la joie, quoi. Vraiment, le cadeau improbable.
Et puis en plus, c'est une aventure ensemble. Donc il y a aussi l'amitié là-dedans qui est très forte, en plus de ce projet de bébé formidable.
Ça.
Alors, vous avez trouvé un centre de PMA qui vous a reçu pour parler de ce projet. Est-ce que c'est un processus qui est long?
Très long, mais nécessaire.
C'est-à-dire qu'on vérifie que vous êtes sûr de vous, etc.
C'est ça, oui.
Donc comment ça se passe?
On passe dans les mains de différents médecins, que ce soit des psychologues, des psychiatres, gynécologues, évidemment. Et on étudiait sur toutes les coutures, évidemment. À 4, à 2, à 1, tout le monde y passe.
Vous voyez des psys, j'imagine.
Voilà. Et mon mari aussi, eux aussi, les parents d'attention. Et il faut être sûr de soi. Donc, c'est une décision qui doit être prise en famille. Il n'y a rien à faire. C'est nécessaire. C'est plus que nécessaire.
Oui, donc vous trouvez que le parcours a beau être long, il est obligatoire.
Ah oui, il est obligatoire.
Alors, vous avez fait ensuite, une fois que vous avez fini le processus, vous avez fait 2 FIV.
Oui.
La maman d'intention était là.
Oui.
On peut donner son prénom? Non, elle ne veut pas. Ok, non, non. On va l'appeler la maman d'intention.
D'accord.
Et alors, ça n'a pas pris. Comment est-ce que vous l'avez vécu, toutes les deux?
C'est difficile. Pour moi, c'était vraiment une épreuve difficile. Parce qu'on a beau nous dire que ce n'est pas de notre faute, qu'on n'est pas responsable, on se culpabilise quand même. On se dit peut-être qu'on a trop envie que ça arrive. C'est comme toutes les femmes qui ont envie d'être enceintes et qui n'y arrivent pas. Parce qu'elles n'ont que ça en tête, elles ne pensent qu'à ça, et ça ne marche pas. Donc forcément, moi, je me dis, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que j'ai trop envie que ça fonctionne.
Oui, alors on va préciser que FIV, c'est fécondation in vitro, hein, parce que je ne l'ai pas dit. Donc, on vous met l'embryon dans votre utérus. Ça, vous, le fait d'avoir 2 échecs, ça ne vous a pas démotivé?
Ah non, non, non. Ah non, non, à chaque fois, je disais, allez les gars, on y va, c'est pas grave, on recommence.
Donc vous avez fait une 3e?
On a fait une 3e.
Alors là, comment ça s'est passé?
Alors là, c'était un moment magique, évidemment. Donc le papa d'attention a téléphoné pour avoir les résultats de la prise de sang, mais on n'a pas voulu lui donner, forcément, puisqu'on ne les donne pas à une personne étrangère au téléphone. Donc j'ai téléphoné moi-même de mon lieu de travail, je me suis un petit peu isolée. Et là, on m'a dit... Ben c'est bon, madame.
Oh.
Là, ça ne s'explique pas.
Comment vous leur avez annoncé?
Je leur ai téléphoné à un puis à l'autre, puis ils étaient tous les deux au travail. On se prend pour un messager avec la bonne nouvelle, quoi.
Le messager divin.
C'est ça. Donc, voilà, c'était vraiment une aventure qui commençait.
Alors, c'était une grossesse difficile pour vous, parce que vous disiez que vous n'aimiez pas être enceinte. Bah, vous avez été malade tout du long.
Oui.
Alors, évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Comment vous avez fait pour ne pas vous attacher à ce bébé?
Je n'ai pas ressenti un lien particulier. C'est vrai qu'avec mes enfants, quand on est enceinte de son enfant, forcément, on se caresse le ventre, etc. On a des petits gestes d'affection. Là, je n'en ai pas ressenti le besoin, en tout cas.
Naturellement, ça ne vous venait pas l'idée?
Non. Ce n'était pas mon bébé, donc voilà, je n'ai rien ressenti de particulier.
Et comment est-ce que vous avez géré, entre guillemets, même si ce n'est pas un joli verbe pour parler de ça, la grossesse avec les parents d'intention? Vous étiez tout le temps ensemble, j'imagine?
Ils venaient régulièrement à la maison, mais ils ont vraiment respecté mon intimité aussi. Donc, ils n'étaient pas envahissants. Mmh. Ils étaient présents, mais pas envahissants.
Mais ils étaient là, toutes les échographies,
c'est
j'imagine.
Ça, oui, oui. Ah oui, ça, c'était vraiment un point sur lequel je voulais vraiment qu'ils soient là tous les deux. Et j'étais un peu plus spectatrice que participante. Je n'avais pas l'impression que l'enfant qu'on voyait à l'écran était dans mon ventre. J'avais l'impression de les accompagner, en fait.
Et eux, alors, ils parlaient au bébé aussi?
En fait, on avait trouvé une astuce. Donc, ils avaient raconté une histoire, chacun à leur tour. Ils l'avaient enregistrée. Ils me l'avaient envoyée sur mon téléphone. Et alors, tous les soirs, je mettais des petits écouteurs sur mon ventre et ils racontaient l'histoire au bébé.
Est-ce que vous aviez, vous, des exigences, des demandes particulières pour le jour de la naissance?
Non, pas spécialement. Je voulais que tout le monde soit présent. Je voulais que les parents soient là, forcément. Je ne voulais pas avoir le bébé dans mes bras. Je voulais que le bébé soit dans les bras de sa maman en premier. Et la psychologue du centre de Saint-Pierre voulait que mon mari soit présent aussi. Moi, je ne trouvais pas que c'était vraiment utile, mais voilà, elle préférait que je ne me retrouve pas seule au moment où on me reprend le bébé, en fait. Mais alors, j'ai chargé mon mari de prendre les photos, puisque moi, je n'étais pas avec eux dans la salle qui était juste à côté de la salle d'accouchement. J'ai chargé mon mari de faire les photos pour quand même, moi, avoir un souvenir.
Vous ne vouliez pas accoucher par voie basse, en revanche?
Ce n'est pas que je ne voulais pas, mais vu mon âge, on est tombé d'accord avec la gynécologue pour préserver mon périnée, etc. C'était préférable de penser
oui,
à une
c'était pour vous protéger. Hein,
oui, c'est voilà. Ça. Oui.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand cette petite fille est sortie de votre ventre et dans votre tête et dans la tête des parents d'intention?
Alors, je ne peux parler que dans ma tête, forcément, mais c'est magique. Enfin, il n'y a pas de mots. C'est un cadeau. Les personne ne saura vraiment comprendre ce qui se passe, en fait, sauf si on l'a vécu. Mais on est un petit peu partagé. On est content parce que la grossesse se termine, dans mon cas. On est content parce qu'on fait le cadeau tant attendu. Et puis, on est un peu triste que l'aventure se termine.
Hein. Oui.
Quelque part, mais j'étais aussi satisfaite et j'étais contente de retrouver un petit peu mon intimité, être un peu moins sous les projecteurs.
Ouais,
ça c'est un petit peu...
C'est ça, que vous soyez le centre d'intérêt de tout le monde,
oui.
C'est un peu lourd à porter.
Pendant 9 mois, c'est long.
Oui. Je précise que d'un point de vue légal, le papa avait fait une reconnaissance de paternité avant la naissance.
Oui.
Donc, il a été la déclarée à la mairie et que la maman, elle est en cours de procédure d'adoption. Alors, vous êtes maintenant marraine de cette petite fille.
Oui.
Et sa maman vous a écrit une très belle lettre de remerciement et vous avez accepté toutes les deux que je la lise. Ça va être dur pour moi. Parce que là, l'émotion, je ne vous dis pas. Alors, grâce à toi, je lis juste un extrait.
Merci.
Grâce à toi, je tiens dans mes bras une merveilleuse petite fille que j'aime déjà plus que tout. Quelle chance extraordinaire j'ai de t'avoir dans ma vie. Tout ce bonheur ne serait pas possible sans toi. Quoi que je dise, quoi que je fasse, rien ne sera assez grand, assez fort pour te dire merci. Mais je sais une chose, je serai toujours là pour toi, tu es mon amie. Ma confidente, ma sauveuse, la plus merveilleuse des personnes que je connaisse. Et je vais vous dire, ça c'est vrai que ce qu'on peut retenir de votre témoignage, en dehors du fait que c'est de la générosité pure, c'est qu'apparemment la générosité, ça rend heureux. Hein.
Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Est-ce que vous avez déjà parlé de cette histoire à cette petite fille?
Pas encore. Elle n'a pas encore 2 ans, donc c'est un peu prématuré. Je pense qu'au fur et à mesure qu'elle va grandir, elle va voir les photos, etc., parce qu'ils vont lui montrer. Et là, elle posera les questions qui lui passeront par la tête. Et on y répondra.
On accueille tout de suite le docteur Candice Autain. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors vous êtes gynécologue obstétricienne et chef du service de procréation médicalement assistée au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Donc vous y accompagnez des parents qui sont en parcours de GPA, gestation pour autrui, avec une porteuse connue et proche du couple. Parce que la GPA, je le précise, commerciale, est interdite en Belgique. Donc vous travaillez en étroite collaboration avec les psychologues du service, on l'a vu avec le témoignage de Nathalie, qui sont extrêmement présents, puisqu'on aura compris que c'est un parcours long. Alors la GPA, elle n'est pas encadrée juridiquement en Belgique, donc vous êtes les seuls accompagnants, je dirais, sécurisants possibles pour les couples. C'est une lourde charge. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de refuser des dossiers ?
Alors oui, effectivement, donc comme vous l'avez dit, c'est la relation finalement qui se crée entre les parents d'intention, la mère porteuse et notre équipe qui rend l'événement sécure. Et alors d'abord, une grande partie des demandes s'abandonnent d'elles-mêmes parce que la mère porteuse se désiste, parce que les parents trouvent ça trop complexe. Et donc parmi les demandes qui vont arriver jusqu'à être discutées dans notre équipe, oui, on en refuse un certain nombre. Et la principale raison de refus, c'est finalement qu'on estime que le risque que va prendre la mère porteuse est trop important. Risque qui peut être médical ou qui peut être psychosocial.
Alors justement, à propos du rôle que va tenir la mère porteuse, on a reçu une question pour vous de Marie. Regardez.
Bonjour la maison des maternelles. Alors moi c'est Marie, donc j'ai une question. Je me demandais, donc la mère porteuse ayant porté le bébé pendant 9 mois et restant proche de lui ensuite tout au long de sa vie, est-ce qu'il n'est pas difficile pour elle de trouver une juste place par rapport à l'enfant? Parce qu'en fait elle est plus qu'une tante ou une amie, mais elle n'est pas la mère non plus. Donc voilà, bon. Eh bien merci de répondre à ma question, bonne journée.
Bah c'est une bonne question. C'est quelle est sa place?
Alors, donc, ce qui est tout de même particulier dans nos prises en charge, c'est que la relation entre les parents d'intention et la mère porteuse, elle existe avant le projet de GPA. Ce n'est pas comme des GPA aux États-Unis, oui, au Canada. Donc c'est une relation qui existe avant et qui se poursuit après. Alors on est d'accord, bien sûr, pendant 9 mois, il va y avoir une fonction très particulière, la mère porteuse va porter leur enfant, mais après elle reprend sa place, et finalement dans les retours d'expérience qu'on a, c'est ce qu'elles disent, c'est-à-dire qu'elles vont reprendre leur place, ben, si c'est la tante, c'est la tante, si c'est une amie, elle sera là effectivement aux fêtes de famille, mais elle n'aura pas une place, elle ne va pas avoir une fonction parentale, elle ne va pas s'occuper de l'enfant au quotidien, mais par contre elle va, je dirais, profiter du bonheur de ces personnes qu'elle a aidé et qui sont des proches.
Alors toujours sur le lien, parce qu'évidemment ça pose question, Fanny vous dit « J'ai du mal à imaginer sentir un bébé en moi et le porter 9 mois sans être troublée ni tisser un lien fort avec lui. La porteuse s'attache-t-elle parfois au bébé pendant la grossesse ?»
Alors heureusement elle s'y attache, parce que sinon on voit mal comment elle pourrait porter un enfant 9 mois sans s'y attacher, hein, pour pouvoir s'occuper d'un enfant dans son ventre, ben oui, on s'y attache. Mais je pense que Nathalie, il dit très bien, c'est vraiment un attachement différent. Tous les retours de témoignages, elles nous disent toutes, les mères porteuses, qu'elles ont investi leur grossesse différemment de leurs autres grossesses. Finalement, il y a une fécondation in vitro qui est faite avec les gamètes des parents, les spermatozoïdes, les œufs des parents d'intention, et l'embryon est transféré chez la mère porteuse, qui donc, pour elle, a une fonction de s'occuper de cet embryon, de ce bébé, couver pendant 9 mois, voilà, et puis le rendre à ses parents. On peut vraiment dire que c'est comme un relais dans le soin. Hein. Elle s'en occupe pendant 9 mois, et puis ses parents reprennent le relais.
Y a Elsa qui dit « On dit souvent qu'un nouveau-né reconnaît l'odeur et la voix de sa mère parce qu'il l'a senti et entendu pendant toute la grossesse. Du coup, peut-il y avoir une confusion pour le bébé et la maman ?»
Alors, c'est difficile de parler à la place du bébé, ouais, hein, donc on ne sait pas ce qu'il ressent. Mais ce qu'on peut dire, c'est que... alors, vous avez vu, hein, souvent, les parents d'intention, ils enregistrent leur voix, et donc la mère porteuse met la voix. Mais bon, malgré tout, ce n'est pas la même chose. Mais je pense que ce qui est important, c'est que le lien qui va se créer entre l'enfant et ses parents, parce qu'il n'y a pas que la maman, il y a le papa, c'est un lien qui va se créer au jour le jour. Et oui, il ne s'est pas créé in utero, puisqu'il n'a pas été dans le ventre de la mère d'intention.
Ça fera partie de l'histoire du bébé, tout simplement.
Tout à fait. Et c'est comme pour tous les parents, c'est petit à petit que le lien entre un enfant et ses parents se construit.
On commence avec la question de Christophe. D'un point de vue légal, comment les parents biologiques peuvent-ils être reconnus comme tels puisque la femme qui accouche est automatiquement considérée comme la mère en France comme en Belgique ?
Alors, je ne suis pas juriste, ouais, mais on va répondre comme un gynécologue. Donc, la reconnaissance en paternité et en maternité, c'est très différent, puisqu'un père, pour reconnaître son enfant, ben, il va à la mairie et puis il reconnaît son enfant. C'est pareil dans la GPA, il va à la mairie, il reconnaît l'enfant. Alors, ce qui est compliqué, c'est pour la mère, puisqu'effectivement, en Belgique ou en France, on devient mère en accouchant ou en adoptant. Et donc, dans la GPA, ça va être une adoption. Ça peut paraître très choquant pour les parents d'intention au départ. La maman dit « je vais devoir adopter mon propre enfant ».
Oui.
Oui. Alors, la différence, c'est qu'en Belgique, ça va se faire dans la transparence, puisque ce n'est pas interdit. En France, vu l'interdiction, ça va se faire dans la discrétion.
Et même si on arrive avec un test ADN en prouvant que c'est bien notre enfant biologiquement.
C'est pas la biologie.
C'est pas la biologie qui compte.
La reconnaissance en maternité.
Bon, bah après, une fois que l'adoption est faite, on passe à autre chose. Enfin, je veux dire, on...
Oui, oui, oui. Ouais. Mais c'est long.
Oui, c'est une procédure.
C'est long et lourd. Ouais. Eh bien, c'est compliqué. Question de Maxine. En cas de malformation ou de problème majeur, posant la question de l'interruption médicale de grossesse, à qui revient la décision ?
Alors, si on s'en réfère au point de vue légal, c'est évidemment la mère porteuse, puisque c'est la seule mère légale, voilà. Après, c'est évidemment un sujet qui est toujours discuté de manière préalable lors des entretiens. Les parents d'intention et la mère porteuse ont toujours discuté ce sujet-là. Et de manière invariable, toutes les mères porteuses vont nous dire que c'est les parents d'intention qui décident, c'est leur enfant, c'est eux qui vont l'élever. Alors, on soulève toujours le fait qu'elle va devoir donc peut-être avoir une interruption médicale de grossesse, ce qui n'est pas du tout anodin. Mais voilà, c'est un sujet qui est toujours discuté au préalable.
Clara vous demande, est-ce que cela arrive que les parents d'intention et la mère porteuse ne soient pas d'accord sur des décisions médicales à prendre pendant la grossesse ? Alors ça, c'est vrai que ça doit être quelque chose.
Oui, alors tout à fait, hein, faut pas, la grossesse, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il peut y avoir des épisodes de tension.
Oui.
Et donc, ça arrive. Je vais donner un exemple qu'on a vécu. Fin de grossesse, le bébé devient fort gros et donc il est question de déclencher l'accouchement, ce qui pour la mère porteuse est inenvisageable. Elle veut un accouchement naturel. Pour les parents d'intention qui ont perdu un bébé dans leur histoire traumatique, c'est inenvisageable de faire prendre un risque au bébé et donc tension. Alors là, ça s'est bien fini parce que finalement, la mère porteuse, elle s'est mise en travail et l'accouchement s'est déclenché spontanément. Mais c'est vrai que oui, il peut y avoir effectivement des désaccords. Même si on a anticipé énormément de choses lors de nos entretiens, on ne peut pas tout anticiper. Bien sûr.
On a une question pour vous demander. Lorsque l'enfant sera grand, est-ce qu'il ne va pas se sentir abandonné par sa mère biologique ? Vous parlez de mère d'intention, mère biologique. Est-ce que ça ne risque pas de le détruire à l'adolescence, qui est une période bon, où, de toute façon, on est tous plus ou moins...
Sa mère biologique, c'est la mère d'intention. Voilà. Hein. Je rappelle qu'on a fait une fécondation in vitro. Donc, c'est les ovocytes de la mère d'intention, les spermatozoïdes du père d'intention. Donc, l'embryon biologiquement... Cet embryon, ce bébé, cet enfant est complètement rattaché à ses parents d'intention. Il n'a aucun lien génétique avec la mère porteuse.
La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de rejet ?
De rejet de qui ?
Bah de la mère biologique. Non, de la mère biologique, en disant, mais tu ne m'as pas porté, j'en sais rien. Je relais la question.
Alors, encore une fois...
Ma question est débile.
Les retours d'expérience ne montrent pas du tout ça. C'est-à-dire que l'enfant, très clairement, il a été élevé. Les personnes qui en ont pris soin, qui l'ont désiré, qui lui ont amené de l'amour, qui ont été là au quotidien, ce sont ses parents. Et oui, il a une histoire particulière parce qu'il a grandi dans le ventre d'une autre, mais il connaît cette histoire depuis le début. Mm. Et donc, on n'a aucun témoignage qui nous dit, mon enfant m'a rejeté parce que je ne l'ai pas porté.
Non, mais c'était quand même une bonne question.
Oui.
Il est gentil. Alors, Aurore vous demande, je suppose que vous accompagnez des couples français.
Oui.
Comment font-ils pour le suivi de la grossesse en France quelle version donnent-ils vu que c'est interdit ? Est-ce qu'ils disent la vérité ou pas ? Comment ça se passe le suivi ?
Alors, moitié des couples qu'on accompagne, ce sont des Français. Donc, oui,
moitié
de nos demandes, ce sont des Français. Et alors, un prérequis, on demande ça depuis plusieurs années, c'est qu'ils trouvent une équipe médicale au courant et soutenante. Donc, nous, on refuse que ça se passe...
En France ?
Oui.
Mais alors,
on refuse que ça se fasse dans le mensonge et la dissimulation. Donc, ils doivent trouver une équipe. Alors, soit ces gens ont déjà une équipe qui les soutient parce qu'ils ont un parcours, encore une fois, qui est souvent traumatique avec parfois perte de bébé, perte d'utérus. Et il y a des gynécos qui les ont suivis dans ce parcours-là et qui sont touchés par leur souffrance et qui acceptent de les accompagner.
Donc, le gynéco en France, par exemple, il peut dire « Bon, de toute façon, ce n'est pas de mon fait. Moi, je gère le côté médical de la situation de ces... »
Voilà. Alors, nous, on ne leur demande pas de nous faire un écrit en bonne et due forme qui atteste qu'ils vont participer à un projet de GPA. On a bien en tête que c'est interdit en France. Mais on s'assure vraiment qu'il y ait cette équipe là, présente et soutenante en France. C'est vraiment important pour nous.
Question de Noémie qui vous dit, on en a un peu parlé tout à l'heure, le lien. À propos de l'importance du lien mère-enfant, on le sait notamment pendant la grossesse. Important, elle vous pose aussi la question du pot à pot les premiers temps. Qu'en est-il en cas de GPA ? Qui fait le pot à pot ?
Alors, la mère d'intention, hein, donc généralement, c'est quelque chose qu'on aborde aussi lors des entretiens, comment vous allez faire au moment de l'accouchement. Donc, ce qui se passe le plus souvent, c'est que le bébé est mis sur la peau de la maman ou du papa, hein, et que ce pot à pot va avoir lieu avec les parents d'intention et pas avec la mère porteuse. Et d'ailleurs, les mères porteuses ne veulent pas avoir cet enfant en pot à pot.
Alors, Johanna, vous dites, n'est-ce pas trop difficile pour la porteuse qui a été au centre de toutes les attentions de se retrouver en une minute seule et sans bébé à la maternité ? Ça rappelle ce que disait Nathalie tout à l'heure.
Si, donc c'est toujours quelque chose qu'on aborde comme étant une période très délicate et qu'il faut donc anticiper parce qu'effectivement, on a été le centre d'attention pendant 9 mois pour les parents d'intention, pour l'entourage et puis tout à coup, on se retrouve effectivement toute seule. Son mari travaille, les enfants sont à l'école et nous, la mère porteuse est en congé de maternité. Et donc, il faut anticiper, il faut prévoir qu'elle puisse chercher de l'aide, que le mari puisse être auprès d'elle pour aider, que les parents d'intention puissent venir lui montrer le bébé parce que les mères porteuses disent l'importance pour elles de pouvoir voir que le relais est bien passé, cet enfant dont elles ont pris soin, ben, les parents s'en occupent, sont heureux. Donc c'est vraiment une période délicate et il faut vraiment la préparer.
Vous dites qu'elle est en congé maternité, du coup la mère porteuse, le suivi psychologique c'est quoi à ce moment-là ?
Alors, donc bien entendu, nous, on leur dit nos psychologues sont à leur disposition et donc sont prêtes à les recevoir, à les appeler au téléphone.
Mais c'est pas obligatoire.
On l'impose pas parce que les gens qu'on prend en charge viennent de partout en Belgique et pour la moitié de France. Et donc, c'est compliqué de les faire venir de France pour voir la psychologue quand on est en congé maternité. Donc voilà, il faut aussi être un petit peu réaliste. Mais par contre, on est vraiment là pour eux s'ils ont besoin.
Elena vous dit, si je portais le bébé d'une proche, j'aurais peur de me sentir coupable en cas de fausse couche ou de soucis pendant la grossesse. Travaillez-vous en amont avec le couple et la porteuse sur ce risque ? oui. peut exister.
Évidemment, on le travaille. Nathalie le dit très bien dans son témoignage. Et donc, même si on le travaille, les mères porteuses se sentent coupables quand ça ne fonctionne pas, quand il y a une fausse couche. Même si on leur dit, ça n'a rien à voir, c'est l'embryon qui n'est pas votre embryon. Et donc, s'il ne s'implante pas, c'est probablement parce qu'il est anormal. Ce n'est pas de votre faute. Mais elles se sentent coupables. Et on a même eu des situations où la mère porteuse, après une fausse couche, a décidé d'arrêter le projet parce que c'était trop compliqué pour elle.
Ouais.
Donc oui, oui, c'est quelque chose d'important.
Erika vous demande quels sont les critères nécessaires pour être une mère porteuse. Y a-t-il par exemple un âge limite? Faut-il forcément déjà avoir eu des enfants? Ça, c'est intéressant.
Alors oui, il faut forcément avoir déjà eu des enfants. Ça nous semble indispensable, tant d'un point de vue psychologique que médical, qu'on soit déjà mère. Alors le grand principe, c'est qu'il faut que la grossesse soit à bas risque. Donc il ne faut pas qu'il y ait des éléments qui nous fassent dire dès le départ cette grossesse risque d'être à haut risque. Donc par exemple, si on a une grossesse avec un gros diabète de grossesse, avec une prééclampsie, avec une césarienne, avec une hémorragie.
Ah, césarienne, c'est...
Oui, césarienne, c'est... Ah, ouais. En tout cas... Alors après, comme je dis toujours, chaque cas peut se discuter. Mmh. Et par exemple, au niveau de l'âge, on préfère que ce soit en dessous de 40 ans. Mais Nathalie est un beau contre-exemple.
Oui, donc, oui, elle avait 45 ans, voilà. on l'a pas beaucoup dit.
Donc moi, je dis toujours, je préfère avoir une femme de plus de 40 ans, mince, en bonne santé, sans hypertension, sans diabète, qu'une femme de 35 qui est obèse, hypertendue. Donc voilà, l'âge n'est pas un critère absolu.
Déterminant.
Voilà. Mmh.
Je rappelle que vous êtes chef du service de procréation médicalement assistée au CHU Saint-Pierre à Bruxelles, donc vous ne faites pas que de la GPA, loin de là, beaucoup de PMA. Dans cette émission, on avait énormément parlé de la PMA pendant le Covid, où tout avait été plus ou moins suspendu. Est-ce que vous pourriez nous dire en Belgique comment ça s'est passé, si là aussi tout a été suspendu, et si c'est reparti, si l'activité est repartie normalement?
Alors, tout a été suspendu pendant la première vague, effectivement, on était en plan d'urgence, donc voilà, à part ce qu'on appelle l'oncofertilité, donc la conservation
des ovocytes
en cas de cancer. Puis ça a repris, et lors des vagues suivantes, effectivement, ça n'a pas été interrompu, on a pu continuer avec plein de perturbations, puisque réquisition de personnel de temps en temps, réquisition de salles, limitation dans les consultations. Par exemple, les conjoints peuvent beaucoup moins accompagner qu'avant, ce qui est dur en PMA.
Encore maintenant ?
Encore maintenant pour certaines choses, parce que dans les salles d'attente, on essaye de ne pas avoir trop de monde pour garder tout de même une distanciation sociale.
Et même le vaccin n'a pas apaisé un peu les...
Alors, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les gens qui font de la PMA, donc nous, on encourage vivement, mais voilà, je veux dire, il n'y a rien qui oblige légalement au jour d'aujourd'hui.
Il n'y a pas de passe sanitaire qui permette d'entrer dans les CHU?
Alors, au 1er octobre, sur Bruxelles, le pass sanitaire sera d'application. Il ne l'est pas pour l'instant, mais on ne sait pas encore si...
Au 1er octobre, donc dans 4 jours.
Ouais. Okay, donc c'est... Alors, on ne sait pas encore si ce sera d'application pour les hôpitaux. On pense que oui. Comment ça va être contrôlé, voilà, tout ça, on n'a pas encore les détails.
D'accord. Bon courage. On connaît ça en France. Ça doit être très dur psychologiquement pour ces couples. On sait que ce sont des parcours chaotiques, longs, fatigants, épuisants et tout. Le Covid, en plus, a dû... déstabiliser tout le monde.
Complètement. En plus, il reste un regard par rapport à la PMA comme quelque chose un petit peu qui est un luxe. Souvent, c'est comme ça que c'est vécu. Donc, autant l'accouchement, la PMA, c'est pas vraiment indispensable. Alors que c'est des couples en souffrance.
Et donc, c'est vu comme ça encore, la PMA ?
Oui, c'est souvent vu comme ça, même au sein de l'hôpital, quoi c'est pas vraiment indispensable. Hein, je veux dire, est-ce que c'est une bonne idée de mettre une grossesse en route dans cette période ?
Non,
oui, non, mais les autres qui sont pas infertiles, en fait, ils mettent des grossesses en route.
Oui, c'est ça.
Pas la question.
Oui.
Donc,
alors, voilà. Lise vous demande, au niveau de la fratrie, lorsqu'on est porteuse et qu'on a déjà des enfants, n'est-ce pas compliqué pour eux de comprendre qu'on est enceinte, mais pas d'un petit frère ou d'une petite sœur?
Alors, encore une fois...
Pour les plus petits, je pense. Ouais.
Retour de témoignage, on n'a pas du tout ce sentiment-là. En fait, les enfants, ils comprennent assez vite quand on est assez clair avec eux. Donc Tata, elle a plus le panier à bébé et donc c'est maman qui porte le bébé de Tata et c'est ton petit cousin qui est dans mon ventre. Voilà, les enfants, à partir du moment où on est assez transparent et qu'on est voilà,
c'est en règle générale, ce qu'on peut dire.
En règle générale, tout à fait.
Vous êtes d'accord, Marie ?
Ils comprennent assez vite et on n'a pas de témoignages d'enfants qui ont été dans la confusion par rapport. Par contre, ils peuvent dire que. Ça a été parfois pénible, cette période où maman s'occupait moins d'eux parce qu'elle était fatiguée.
Ouais. Merci, docteur Candice Autin, qui est donc, je le rappelle, gynécologue spécialisée en PMA. Et merci à Nathalie d'être venue se raconter et raconter son histoire, évidemment, touchante, avec Agathe Le Caron. D'ici là, moi, je vous retrouve demain, mercredi, pour le podcast
pour l'émission sur France 2, sur les différents réseaux sociaux. Si vous avez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, l'auberge est ouverte du matin au soir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, à demain j'espère, ciao.